publier les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les prix à l'importation. Puis vers 16h, l'indice précurseur de janvier calculé par le Conference Board. Donc en attendant, eh bien, peu de mouvements sur les marchés actions. Côté devise, la tentative de rebond amorcée hier par le dollar a tourné court. L'euro est en petite hausse aujourd'hui de 0,07% à 1,3050. Enfin, un petit mot sur le fixing à Londres qui est en hausse de 3,50 à 426,60. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,20% à 4017 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Vous écoutez France Inter, il est presque 14h04. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui avec Patrick Poivre d'Arvor, le dernier des grands corsaires, Robert Surcouf. Vous battez pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur. Vous avez raison monsieur, chacun de nous combat pour ce qui lui manque. Réponse de Surcouf à un capitaine anglais. D'histoire. Le 9 juillet 1827, tous les bateaux de Saint-Malo, pavillons en berne, s'étaient donné rendez-vous dans la rade pour saluer la barque voilée de noir qui transportait le corps de Robert Surcouf. Le plus célèbre des corsaires malouins venait de mourir dans sa ville natale à l'âge de 54 ans. La guerre de course avait depuis longtemps disparu et Charles X ne donnait plus ses lettres de marque qui permettaient jadis aux corsaires d'attaquer les bateaux de commerce. Et Surcouf, à la fin de sa vie, était devenu un des armateurs les plus respectables et les plus riches de France. Mais tous les Malouins se souvenaient de l'époque où, 20 ans plus tôt, à l'autre bout du monde, un jeune lieutenant de 17 ans était entré dans l'histoire quand le gouverneur de Port-Louis lui avait demandé de forcer le blocus anglais autour de l'île Maurice, qui s'appelait alors l'île de France.
En somme, lieutenant Surcouf, vous croyez avoir une chance de réussir là où des capitaines expérimentés ont échoué.
J'en suis sûr, Excellence. Quelle est ma destination?
Les îles Seychelles. Vous devrez revenir directement à Port-Louis avec tous les vivres que vous pourrez...
En forçant le blocus deux fois.
Est-ce que vous êtes toujours décidé?
Me donnerez-vous la lettre de marque de navire corsaire pour avoir le droit d'attaquer les Anglais?
Je vous ferai établir un permis de navigation et remettre des mousquetons. Mais vous avez seulement le droit de vous défendre. Acceptez-vous la mission?
Oui, Excellence.
Capitaine Surcouf, vous prendrez la mer demain matin.
Patrick Poivre d'Arvor, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le début en 1795 d'une aventure qui allait faire de Surcouf le plus célèbre, mais aussi le dernier corsaire de France. Vous le rappelez dans un livre écrit avec votre frère, Pirates et Corsaires. Hein, leur histoire se termine à peu près en même temps que Surcouf au début du 19e siècle. Peut-être faut-il rappeler d'abord la différence, pour ceux qui l'ignorent, entre les pirates et les corsaires, parce qu'au fond ils font à peu près le même boulot.
C'est vrai. Alors, on l'a un peu entendu dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait une lettre de marque ou une lettre de course qui était donnée aux corsaires, c'est-à-dire le roi de France ou le roi d'Angleterre ou le roi d'Espagne décidait de, au fond, sous-traiter le travail, de faire sous-traiter le travail par des gens qui, eux, évidemment, devaient respecter un certain nombre de règles, évidemment n'attaquer que les navires ennemis, mais en revanche, était affranchi de toute hiérarchie, de toute discipline militaire. Cela dit, quand ils arrivaient au port, en l'occurrence pour Surcouf à Saint-Malo, il y avait à ce moment-là un juge de paix qui arrivait avec un représentant de l'autorité et qui voyait ce qu'il y avait dans les cales et qui faisait le décompte entre ceux qui allaient revenir à l'armateur, au corsaire lui-même, parfois ce n'était pas le même, et à l'État. Ça, c'est pour les corsaires.
Le corsaire, c'était au fond un peu un pirate d'État.
Oui, voilà. Hein? Le pirate, lui, il agit pour son propre compte, il fait ce qu'il veut.
Alors, ça apparaît, les corsaires, au XVIe siècle, marqués par quelques grands noms de corsaires français, Duquesne, Jean Bart, Cassa, et puis,
Duguay-Trouin et Surcouf, qui étaient tous les deux originaires de Saint-Malo, qui était un des grands ports de Corsaire, avec Dieppe, Dunkerque aussi, il y avait Nantes. Mais Saint-Malo, alors là, c'était une ville qui est d'ailleurs tellement, que redoutaient tellement les Anglais et leur marine, qu'ils voulaient absolument qu'elle soit bombardée, dites-vous.
Oui, il n'est qu'à voir Saint-Malo aujourd'hui. Saint-Malo, ce n'est qu'une succession de ports et de forts. Des forts qui sont là, en train d'essayer de protéger cet endroit qui sera recherché tout le temps, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'île de Sésame, qui se trouve juste en face, est certainement une des îles les plus bombardées du monde. On retrouve encore aujourd'hui des carcasses d'obus, parce que c'est un endroit qui a été très recherché.
Alors c'est là qu'est né en 1773 le jeune Robert Surcouf, qui bien entendu est fasciné par le récit de tous ces corsaires malouins ou corsaires français. Il veut lui-même le devenir. Il devient d'ailleurs mousse très tôt, à l'âge de 13 ans. Il part sur des bateaux de commerce et même sur un négrier.
Oui, alors il a à peine 13 ans en effet quand il s'embarque pour la première fois sur un bateau qui s'appelait le Héron. Et puis très vite, il va suivre ce qui se faisait à l'époque. Il n'y a pas de raison de le cacher aujourd'hui. C'est qu'il y avait beaucoup de traite d'êtres humains, donc des bateaux négriers. Apparemment, ça n'a pas eu l'air de le chavirer plus que ça, et ça se faisait beaucoup, et c'est quand même une page sombre de l'histoire de la marine, pas uniquement de la piraterie.
Et là, il découvre une mer sur laquelle il va s'illustrer plus tard, qui est l'océan Indien, une île, qui est l'île Maurice actuellement, qui s'appelait l'île de France, c'était une colonie française. Et alors, quand la guerre entre la France et l'Angleterre se déclenche pendant la Révolution, alors là, tous les bateaux français, parce que la marine française n'est pas assez forte face à la toute puissante navy britannique, les bateaux français sont évidemment coincés un peu dans leur port. Et cette île, très importante pour la France, mais aussi pour l'Angleterre, parce qu'elle se trouve dans l'océan Indien, cette île est sous un blocus anglais. Les Anglais tentent de l'asphyxier, Patrick Poivre-d'Arvor, à ce moment-là.
Oui, alors l'île, qui a eu une histoire compliquée, puisque ça s'appelle aujourd'hui Maurice à cause de Mauritius, c'est-à-dire donc c'était des Hollandais au départ, un peu brièvement des Portugais, puis les Français jusqu'en 1810. 1810, les Anglais jusqu'en 1968, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance. Donc, et d'ailleurs, c'est étonnant de voir que cette île, aujourd'hui encore, parle beaucoup français, alors qu'elle a été colonisée par les Anglais pendant plus de 150 ans.
Alors, à ce moment-là, donc, à la fin du 18e siècle, au moment où se déclenche la Révolution française, l'île Maurice est sous blocus anglais. Le gouverneur Amalric cherche, parce que vraiment l'île souffre de la famine, littéralement, et c'est le gouverneur qui va confier à Surcouf la mission de
faire sauter le verrou.
De sauter le verrou, d'aller chercher du ravitaillement, je crois que c'était des tortues, enfin c'était
exactement, oui.
pour alimenter avec donc un bateau qui s'appelait à l'époque, je crois, l'Émile.
L'Émile, exactement.
Pour aller chercher donc simplement de quoi se ravitailler. Surcouf, lui, il veut se battre, c'est pour ça qu'il demande une lettre.
Oui, parce que les tortues c'était bien, mais enfin bon, l'eau c'est sympa, aller aux Seychelles aussi, mais enfin ce qui l'intéressait, lui, c'était de ferrailler avec l'Anglais. N'oublions pas que les Anglais était à l'époque la puissance dominante sur l'eau depuis très 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 longtemps et pendant encore très très longtemps. Les Français, au fond, s'il y a eu tant de corsaires français, c'est que le roi de France, et c'était d'ailleurs du temps de Louis XIV, c'est Colbert qui a initié cette idée, le roi de France s'est dit, bon, on est très en retard, on a de super belles infrastructures, on a de très beaux ports, mais en revanche, on a une marine assez nul. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier la sous-traitance, justement, en allant demander aux corsaires de fonctionner. Donc les Anglais sont les rois des mers, incontestablement, et puis ça sera dur. À cette époque-là, ça sera très 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 dur. Napoléon en saura quelque chose quelques années plus tard.
Mais revenons en 1795, c'est le début des exploits de Surcouf, donc il se voit confier son premier commandement sur les milles par le gouverneur, qui lui dit donc d'aller chercher du ravitaillement, qui refuse encore de lui donner une lettre de marque à l'époque, parce que les corsaires c'est pas encore bien vu à l'époque de la Révolution.
Oui, il a à peine 21 ans, 22 ans, il est tout jeune.
Mais cela dit, il part donc chercher soi-disant des vivres. En fait, il se moque de ne pas avoir de lettre de marque, de ne pas être officiellement corsaire, et le 29 janvier 1796, il attaque un énorme trois-mâts anglais de la Compagnie des Indes, 10 fois plus armé que son bateau et sur lequel Surcouf va remporter sa première bataille navale.
Trois-mâts tribord à mur.
Quel pavillon va-t-il ?
C'est un bâtiment marchand anglais.
J'ai l'impression que c'est le Triton de Portsmouth. Et si c'est bien lui, je sais qu'il a 3 fois plus de canons que nous.
Bon, on va lui faire regretter de ne pas en avoir 6 fois plus.
Sonnez le branle-bas, lieutenant.
D'accord, capitaine.
N'oubliez pas,
La moitié du butin nous appartient. Ce soir, nous serons tous riches ou tous morts. Que choisissez-vous? Bon, maintenant à vos postes.
Prêt au combat.
Prêt pour l'abordage.
Abordage. Abordage. Le 31, voudrais-moi là-haut.
Le 31, voudrais-moi là-haut.
Venir, sous le vent à nous.
On vit venir sous le vent à nous.
Une frégate d'Angleterre qui fondait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux.
Buvons un go, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre.
Que dira-t-on de Dieu grand Rafio?
Que dira-t-on du grand Rafio?
À Brest, à Londres et à Bordeaux.
À Brest, à Londres et à Bordeaux.
Qu'a laissé prendre son équipage par un corsaire de six canons, lui qu'en avait trente et c'est bon.
Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et mère pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre.
Et c'était Rémi Sabot et Pavillon Noir, le 31 du mois d'août, la chanson de Surcouf, qui remportait donc dans l'océan Indien sa première bataille navale sur un bateau anglais infiniment plus puissant que le sien, le Triton. Alors comment est-ce qu'il se comportait, Patrick Pouvadarvor, avec les gens qu'il capturait? Parce que les corsaires ou les pirates avaient la réputation d'être plutôt brutaux. On dit plutôt que lui était chevaleresque.
Il était chevaleresque. Et il était de bonne famille. D'ailleurs, un peu plus tard, il aura la Légion d'honneur. C'est quelqu'un qui s'est bien tenu. Et globalement, s'il est resté jusqu'à nos jours dans cette posture de plus grand corsaire du monde, c'est certainement parce que aussi il s'est bien tenu. Il avait une certaine humanité avec ses hommes, mais aussi avec les gens qu'il capturait, parce que on parlait du partage du butin, mais il y avait aussi assez souvent le partage des femmes qui étaient à bord. Lui se tenait bien, voilà. Mais ça ne l'empêchait pas de dire merde au roi d'Angleterre. Tout le monde le disait à ce moment-là. N'oublions pas que le roi de France, lui, c'était il y a peu de temps. Il est mort en 93.
Alors, il est accueilli triomphalement après cette victoire, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une époque où la marine française en remporte peu. Triomphalement, à son retour à l'île Maurice, à l'île de France. En revanche, le gouverneur Amalric, lui refuse de lui laisser le butin, parce que justement, il ne lui a pas donné cette lettre de marque qui faisait de lui un corsaire. Alors, il râle, il rentre. Il va à Paris pour plaider sa cause et il va l'emporter, Patrick Pouvadarvor.
Oui, parce que Amalric s'était pas très bien comporté. Il y avait eu des gouverneurs avant lui qui étaient vraiment de très haute qualité, comme Maï de la Bourdonnais, par exemple, qui se comportait avec l'intendant Pierre Poivre d'une manière très chevaleresque. Lui, Amalric, il était un peu pointilleux, comme il avait pas ses bordereaux, il était très administratif. Alors, il dit non, mon vieux, t'es pas corsaire officiellement, donc on garde tout pour nous.
Alors il gagne à Paris grâce à un avocat. Il devient très riche. Il faut rappeler quand même que ces butins, ça représentait quelque chose pour ces bateaux. Et alors il va recevoir cette lettre de change finalement, parce que le directoire est bien décidé à utiliser.
Alors qu'au début, ils étaient un petit peu, ça leur plaisait pas tellement. Ouais. C'était pas dans l'idée des révolutionnaires.
Et puis, il va repartir dans l'océan Indien. Alors là, il va encore écumer l'océan Indien, capturer ou couler des quantités de bateaux britanniques. Mais alors, pas seulement pour l'argent. Vous le rappelez dans ce livre avec votre frère Patrick Pouvadarvor. Vous rappelez que il part aussi pour essayer de faire libérer son frère, parce que son frère aîné, je crois qu'il s'appelait Charles. Était prisonnier. Sur les bateaux prison de Portsmouth.
Ah, les pontons, c'était épouvantable. Les pontons, ils étaient vraiment, ils se retrouvaient au ras des eaux, avec à peine la possibilité de se lever. Ils étaient vraiment comme dans les cages de Louis XI. C'était une très très épouvantable condition. Il y avait beaucoup de morts à cause du scorbut, à cause des maladies, et puis des mauvais traitements. Et lui, comme vous le disiez, il avait cet amour fraternel. Alors il y avait Charles, il y avait Nicolas, mais Charles
c'était l'aîné.
Il fallait l'aider. Il était coincé, donc il est allé l'aider. Et puis il y avait l'honneur aussi. L'honneur, ça avait beaucoup d'importance. Vous l'avez rappelé avec cette phrase en exergue. En effet, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas, dit-il au capitaine anglais, qui lui dit Monsieur, vous battez pour l'argent et nous pour l'honneur.
Autrement dit, comme évidemment Surcouf, Robert Surcouf était déjà célèbre, pour obtenir la libération de son frère prisonnier des Anglais, il fallait capturer un amiral. Hein,
c'était à la guerre comme à la guerre. Ouais. À ce moment-là, c'est vrai que ça avait une valeur marchande, surtout en Angleterre. Un amiral, ça compte. Il y aura Nelson quelques années plus tard, et donc il était évidemment capital d'en capturer un.
Alors, il faut dire qu'en raison du nombre des bateaux que capturait ou coulait Robert Surcouf, eh bien, il était considéré comme un adversaire redoutable par les Anglais et par leur premier ministre, William Pitt.
Il décime notre marine. Il a déjà pillé et coulé 27 de nos bateaux de commerce.
C'est intolérable. Surcouf agit comme si l'océan Indien était à lui.
Il a réussi à échapper à nos navires de guerre et même à la Sibylle qui avait pour mission de le prendre en chasse.
Messieurs, il est temps que cela cesse.
Je pense que tout homme est vulnérable et risque d'être trahi par ses proches si l'on met sa tête à prix et que la somme soit suffisante.
Et à quel chiffre avez-vous pensé ?
À une prime d'environ 25 000 guinées.
C'est une somme considérable. Vous n'y avez pas de main morte.
C'est que Surcouf représente une prise considérable pour nous.
Et une prise qu'ils ne feront jamais, mais aussi un danger considérable pour les Anglais, Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, et pas uniquement pour les problèmes d'ego, d'orgueil que l'on peut imaginer. C'est parce que lorsqu'il y avait des captures de bateaux, la bourse de Londres, qui était à l'époque la bourse la plus importante du monde, pouvait s'effondrer. Et il suffisait de pas grand-chose. Et ce bonhomme était une menace constante pour l'économie anglaise. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il fera vaciller la bourse de Londres, parce que, justement, il continuera de sévir.
Et pour l'économie anglaise, là où elle était vulnérable, parce que c'est pas un hasard, si le théâtre des opérations où Surcouf s'est distingué, c'était l'océan Indien, parce que c'était la route des Indes, c'était la route empruntée,
bien
justement.
Sûr. N'oubliez pas qu'à l'époque, on disait « cher comme poivre » parce que on allait chercher les épices.
Et poivre, c'est un rapport, bien sûr, avec mon invité d'aujourd'hui.
On allait les chercher, mais on est fiers de cette, avec mon frère, de cette parenté-là, parce que on allait chercher les épices, ça pouvait être le poivre, ça pouvait être le clou de girofle, ça pouvait être un grand nombre d'épices qui valaient très très cher, beaucoup plus cher parfois que l'argent, le cuivre ou même l'or.
Vous pouvez rappeler quand même le rôle de votre ancêtre dans cette affaire.
Oui, Pierre Poivre, qui n'a pas de rapport du tout avec le poivre, mais lui, il est allé chercher de la cannelle et le clou de girofle, il est allé chercher aux îles Célèbes et aux Moluques, et c'est lui qui les a introduites à l'île de France, donc l'île Maurice aujourd'hui, et puis ensuite en France tout court. Et ça a eu beaucoup d'importance, ça a fait baisser le cours de ces épices d'ailleurs.
Alors il y en a un qui faisait monter le cours en revanche de l'armement naval, c'était Surcouf, pour revenir à lui. Et les assurances, effectivement, plus aucune assurance anglaise n'osait assurer les bateaux de commerce. Je crois qu'il en a quand même capturé une cinquantaine, Surcouf. Et alors parmi ces victoires, il y en a une qui est très importante en 1800, parce que c'est sur un énorme bateau de guerre, non d'un bateau de commerce, mais très très puissamment armé, qui était le Kent. C'est la grande victoire de Surcouf.
Ah, le Kent, après le Triton, qui est son coup d'essai, il y a ce coup de gloire qui est le Kent. Oui, parce que le Kent, c'est évidemment, là encore, un bateau infiniment plus puissant que celui qu'il avait.
Oui, il y avait, vous le dites, 1200 tonneaux, 40 canons, 400 marins contre le bateau de Surcouf, qui s'appelait alors la Confiance, et qui n'avait 130 marins, 18 canons. Là, c'est vraiment... On se demande comment est-ce que c'était possible, parce que on se rend compte que toutes les victoires de Surcouf, c'est pratiquement sur des bateaux plus puissants que lui. Évidemment, les Anglais étaient prévenus. Ils avaient même, d'ailleurs, armé, on l'a entendu dans l'archive, un bateau qui s'appelait la Sibylle. Et alors là, il y a eu une espèce de ruse assez extraordinaire. Il a réussi à s'en tirer en faisant croire qu'il n'était pas Surcouf.
C'était un type très intelligent. Et il fallait pas être simplement brutal ou être courageux. Il fallait être très, très rusé. Et plusieurs fois, il s'est sorti de situations impossibles simplement parce qu'il gambergeait et il laissait aller son intelligence.
Alors il revient en France, d'ailleurs je crois que c'est en 1801, juste après cette victoire sur le Quinte. Il faut rappeler que la paix est revenue, donc il n'y a plus de raison pour lui de se battre, c'est la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Cela dit, la guerre va reprendre très vite, Patrick Poivre d'Arvor, et Napoléon va lui demander de reprendre aussi la mer. Or il refuse.
Oui, n'oubliez pas que Napoléon donc avait déjà raté Aboukir, donc première bataille navale cuisante pour lui, et il a au fond il règne sur l'Europe entière sauf sur l'Angleterre. Et pour régner sur l'Angleterre, à ce moment-là, il n'y avait pas de tunnel sous la Manche, il fallait y aller par bateau. Et il a donc eu cette idée de le demander. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il a installé son camp à Boulogne-sur-Mer et qu'il avait le désir d'envahir l'Angleterre. Et il l'a jamais fait. Et Surcouf, sans doute parce que justement il était intelligent, s'est dit j'y vais pas. Bon, en même temps, il n'était pas fou des honneurs, puis il avait envie de se retirer, quoi. Il avait
des honneurs. Il faut rappeler qu'il était un des premiers à recevoir la Légion d'honneur.
Voilà, absolument. Oui, oui, qui a été créé par dont l'ordre a été créé par Napoléon. Mais c'est oui, je pense qu'il avait surtout envie de se poser, quoi, voilà, tout simplement.
Cela dit, il va quand même reprendre la mer en 1807 sur son dernier bateau avec un nom qui ne s'invente pas, qui s'appelait le Revenant. Hein, mm-hmm. Mais ne trouvant plus tellement d'adversaires à sa mesure, il décide de revenir définitivement à Saint-Malo en 1808.
Nous venons de dépasser le cap Comorin. Quels sont vos ordres maintenant ?
Maintenant, on retourne en France.
Combien de temps y resterons-nous ?
Je vais rester à Saint-Malo définitivement.
Je parie le contraire.
Tu perdrais ton pari. Je vais retourner auprès de ma femme et construire des bateaux. C'est fini pour moi les combats.
Capitaine, la vigie signale la présence d'une frégate anglaise, 3000 à tribord.
Laissons-la passer. Je vais jeter un coup d'œil. Le Trafalgar. Ce n'est pas un nom, c'est une provocation.
Nous allons la raisonner.
Non. Nous allons le couler.
Moi, je suis pas sûr que le Trafalgar ait existé, sinon dans l'imagination du réalisateur des films dont on a entendu des extraits. Surcouf, en tout cas, c'est vrai, il rentre en France définitivement en 1808. Il mettra plus les pieds sur un bateau, sinon éventuellement sur les siens. Ce qui est marrant, il a quand même à peine 35 ans.
Oui, 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 il va mourir en 1827, donc à 53, 54 ans. L'histoire du Trafalgar, c'est important parce que, bon, je suis pas sûr non plus qu'il se soit vraiment appelé le Trafalgar, mais il faut pas oublier quand même que deux, trois ans auparavant, à Trafalgar, bon, il y a eu ce drame qui a fait que Nelson, une fois de plus, a repris la conquête des mers. Et donc, il y avait toujours ce désir des Français d'effacer. Et ça a duré très peu de temps. Ça a duré juste le temps de Surcouf. Parce que après, plus jamais, on retrouvera cette suprématie.
Mais c'est domination peut-être ça, sur c'est mer. Peut-être ça aussi la célébrité de Surcouf, Patrick Poivre d'Arvor. C'est que, au fond, c'est les seuls, à cette époque, les seules victoires navales françaises, à l'époque de Trafalgar, d'Aboukir, etc. Ça n'a pas été brillant, l'histoire, hélas, de la marine française à cette époque-là, même s'il y avait de grands amiraux. Mmh. Et lui, alors, Surcouf, lui, à chaque fois qu'il allait quelque part...
Il s'en tirait bien.
Alors, il rentre à Saint-Malo, il devient armateur d'une compagnie qui s'appelait Blaise, Surcouf et compagnie. Blaise, c'était le nom, je crois, de son beau-père. Ils étaient mariés, parce qu'on ne parle jamais, on parle toujours de Surcouf, on parle jamais de sa femme.
Oui, ben on en a parlé dans l'extrait, là, on a entendu. Ouais. Il aimait cette femme profondément. Je suis pas sûr qu'il lui ait été fidèle tout le temps, mais notamment quand il était à l'île Maurice. Mais il l'aimait et il avait envie de terminer ses jours à ses côtés. Et ce sera d'ailleurs un des rares exemples d'un corsaire qui va mourir paisiblement dans son lit, d'une part, et qui va mourir riche, parce que un grand nombre d'entre eux vont mourir ruinés. Ou dans des conditions ou fou comme Cassard par exemple de Nantes qui va mourir dans un fort du nord de la France et c'était toujours des fins assez pathétiques parce que ces gens-là comme toujours les États les employaient jusqu'à ce qu'ils servent plus et puis quand ils servaient plus on s'en occupait plus tandis que lui il a été malin il a su se retirer il a su ne pas avoir le combat de trop et puis il était déjà un peu armateur. Il est devenu de plus en plus, donc il est mort assez riche dans une très belle gentilhommière, enfin qu'on appelle une malouinière.
C'est son autre frère qui d'ailleurs commandait la plupart des bateaux qui est à Carmet sur Couffe, le Nicolas. Oui. Qu'est-ce qui est devenu le fameux Charles qui était prisonnier?
Il est mort à Maurice. Il est mort justement à l'île Maurice. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
il a repris la mer en 1807, c'est qu'il a eu envie d'aller le voir. Donc il n'y restera qu'un an ou deux maximum. Mais il était très attaché à son frère. Il avait été chargé par Robert Surcouf de faire fructifier toutes les plantations et tous les biens qu'il avait acquis là-bas. Mais la mort de son frère, oui, je crois que ça sera quelque chose de très très important. Et au fond, le déclic disparaîtra après Charles.
Et il est mort en 1827, je l'ai dit au début, c'est un véritable triomphe, alors qu'il n'est plus monté sur un bateau pendant 20 ans, 20 années.
On lui rend
hommage à Saint-Malo. La mémoire de Surcouf à Saint-Malo aujourd'hui.
Très importante. Alors il y a eu à peu près au moment du Guétrouin, mais du Guétrouin il avait un problème, c'est que lui il avait toujours le mal de mer.
Donc, il était mal loin aussi.
Mais un malouin qui a le mal de mer, ça arrive aussi. Hein, mais bon, malheureusement, il n'a pas eu l'écho de Surcouf. Ce qui est très intéressant chez Surcouf, et chez du 80 aussi d'ailleurs, c'est que ils ont fondé toute une descendance. Et aujourd'hui, il y a une association extrêmement sérieuse, mais très très sérieuse, l'association des descendants de capitaines corsaires, qui existe toujours, et qui est d'ailleurs très pointilleuse sur... d'abord, il faut pas écrire de bêtises sur leurs descendants, sur leurs ascendants, et puis aussi sur le fait de donner ou pas le titre de pirate ou de corsaire à tel ou tel. Je sais que dans notre livre, par exemple, on a considéré que Jeanne de Belleville, qui était pourtant de 1350 par là, était une pirate. Et ils nous ont dit, ah non, nous la considérons désormais, depuis une dizaine d'années, comme corsaire.
Et puis il y a aussi une descendance, c'est le fait que beaucoup de bâtiments français ont porté le nom de ces pirates d'État qui étaient les corsaires. Il y a eu le Jean Bart, qui était un immense bâtiment avant la Deuxième Guerre mondiale, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Aussi immense que Jean Bart lui-même, qui faisait 2,02 mètres, lui, qui était de Dunkerque, mais qui était un très grand corsaire aussi.
Il y a eu le Duquesne, il y a eu le Cassard, il y a eu aussi le Surcouf, qui a été un des plus grands sous-marins français, qui a disparu en mer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci en tout cas, Patrick Poivre d'Arvor, de nous avoir rappelé le personnage de Surcouf, les aventures de Surcouf, qui fait partie de toutes les aventures qu'on retrouve dans le livre que vous avez écrit avec votre frère, Olivier Poivre d'Arvor, Pirates et Corsaires, un très beau livre, magnifiquement illustré, édité aux éditions Magès. Je signale également que vous venez de consacrer un livre à Jules Verne, toujours avec votre frère Olivier, Le Monde selon Jules Verne, publié aux éditions Magès, et dont vous viendrez nous parler le jeudi 24 mars prochain dans 2000 ans d'histoire. Vous avez pu entendre des extraits de deux films de Sergio Bergonzelli, Le Tigre des Sept Mers et Tonnerre sur l'océan Indien. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Nadège Antonini, Claire Destacan, Claire Tessier et Violaine Ballet, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.